Bonjour. Alors normalement, on devait être deux hommes à cette table, puisque je devais interviewer René Réhouven, qui est un auteur de science-fiction, de romans policiers, qui a écrit deux romans fantastiques assez étonnants, Les Grandes Profondeurs et Les Survenants. Et René a pas pu venir à Sèvres. C'est un monsieur déjà assez âgé et qui a des problèmes de santé. Et donc c'est Anne-Sylvie Massel, qui est traductrice, qui collabore à cette excellente revue que vous trouverez en vente ici, qui est une revue consacrée justement au fantastique. Genre littéraire, c'est un peu... Est-ce qu'on peut parler de genre littéraire à propos du fantastique? On pourra se poser la question. En tout cas, c'est absolument pas un cheminement comparable à celui des deux autres genres littéraires qui sont apparus à la fin du 19e, que ce soit d'un côté la science-fiction ou de l'autre le roman policier. Le fantastique apparaît en littérature bien avant et sous des formes très... très différente de ces deux autres genres. On peut dire que on peut aller chercher des racines du fantastique très loin, hein, dans les récits du folklore. Il y a des récits de peur, il y a des récits de fantômes dans le folklore français. Alors est-ce que tous les contes merveilleux du folklore sont comparables? Ça peut se discuter, même si sur le plan européen, on peut établir des classifications assez proches les unes des autres en ce qui concerne les contes merveilleux. Mais par exemple, dans les contes islandais, il y a des contes de trolls qui n'existent pas ailleurs. Et quand on voit la classification d'Athanasieff, ça ne recoupe pas toujours systématiquement celle qu'on peut établir en France. Mais bon... Il y a donc quelque chose de au départ qui est le fait que l'homme, depuis qu'il existe, se trouve face à un univers indécidable et inconnaissable. C'est particulièrement vrai pour l'homme préhistorique, mais... c'est de plus en plus, c'est de moins en moins vrai jusqu'à l'homme moderne, mais quand même, ces peurs existent toujours, elles se transforment, et peut-être que ce sentiment de peur face à l'inconnu que peuvent représenter des tas de choses, je pense qu'un homme préhistorique confronté à des éclairs et à du tonnerre peut très facilement imaginer qu'il existe au-dessus de lui une puissance supérieure, et qui lui en veut. Faut attendre Buñuel pour voir dans un de ses films, La Voie lactée, il y a deux pèlerins, il y en a un qui est athée et l'autre qui croit en Dieu, et celui qui est athée se tourne vers celui qui croit en Dieu et lui dit « Mais si ton Dieu existe, qu'il me foudroie à l'instant », et la foudre tombe, mais à quelques mètres, et... l'athée dit à celui qui croit, tu vois, il n'est même pas capable de viser. Donc, comme toujours chez Buñuel, hein, c'est lui qui disait « Je suis athée, Dieu merci », en une position un petit peu ambiguë. Donc, je pense, c'est pas, je ne suis pas ethnologue, je pense que l'homme a toujours eu peur de ce qu'il ne connaissait pas, et que donc l'histoire de l'homme peut-être se raconter... d'un certain point de vue, qui est qu'on apprend à maîtriser un certain nombre de choses autour de nous et que peut-être ça peut transformer nos peurs. Alors je ne sais pas ce qu'en pense Anne-Sylvie, parce que...
Oui, c'est pas uniquement ce qu'il ne comprend pas également. Pas uniquement ce qu'il ne connaît pas, c'est dans ce qu'il connaît ce qu'il ne comprend pas. Oui, ça va mieux.
Peut-être mieux.
Oui. Il n'y a pas de petite lumière rouge, ça je ne comprends pas. Bon, si c'est bon, ça marche. Comment on fait pour obtenir... Ça, c'est un mystère déjà assez curieux. Mais...
Voilà.
Voilà. Et la duplication qui va être par exemple un thème fantastique, le thème du double, voire même le thème du fantôme, il a probablement aussi ses racines dans des peurs tout à fait incompréhensibles de visualisation en rêve de gens qui sont morts ou de choses comme ça. Donc on a effectivement un genre littéraire qui s'enracine très profondément et très très anciennement dans le rapport de l'homme à ce qu'il pressent ou ce qu'il sent de lui-même. Et on peut dater la naissance du fantastique à la fin du XVIIIe siècle, je crois, en tout cas en Occident. On a encore le problème de déterminer ce genre de choses, si ça a le moindre intérêt d'ailleurs, mais quand même, pour les littératures orientales ou pour les littératures du monde arabe, par exemple, on sait qu'on passe notre temps à retrouver des ancêtres, on passe notre temps, quand on est dans l'archéologie textuelle, un peu comme au Visage Vert, à retrouver des textes qui... prédate cette naissance du fantastique pour se dire mais c'est, oui, de toute façon le pressentiment, pas le genre est souterrain depuis bien longtemps.
Oui, il n'y a pas de, en littérature comme en biologie, il n'y a pas de génération spontanée. Oui. Ça n'existe pas. On peut toujours remonter et trouver des sortes de linéaments qui conduisent de la Bible à Edgar Poe et au roman policier,
de l'Odyssée,
de Lucien de Samosat à la science-fiction. Et pour ce qui concerne le fantastique, en tout cas, il suffit de prendre n'importe quel recueil des folkloristes français du 19e. Par exemple, Paul Sébillot, dans le bouquin que j'ai fait sur le fantastique, j'ai été voir un petit peu ce que... Paul Sébillot, c'est le grand folkloriste français de la fin du 19e qui a écrit le folklore de France. Il a un gigantesque travail de compilation puisque dans la deuxième moitié du 19e siècle, il a eu en France toute une série d'enquêteurs qui ont été recueillir les contes populaires dans un certain nombre de régions. Bladé, Sébillot, enfin, Carnoy. Et il a compilé ça dans un ouvrage qui s'appelle Le folklore de France. Et j'ai été voir ce qu'il mettait sur les revenants, sur les fantômes. Et alors là, il y a des récits absolument terrifiants de gens qui, en passant devant les cimetières, voient les fantômes assis sur les tombes, ou les rencontrent se promenant dans les chemins. Donc... une croyance qui était beaucoup plus répandue qu'on peut l'imaginer. Et puis arrive Cazotte, en tout cas, c'est ce que les historiens de la littérature signalent en premier avec Le Diable amoureux, et la première grande figure du fantastique, et ça ne devrait pas nous étonner puisqu'on est dans un pays... catholique romain, première grande figure du fantastique, c'est le diable. Diable amoureux chez Cazotte, mais on va retrouver la figure du diable chez beaucoup d'auteurs romantiques, hein, puisque là, il va y avoir une grande période en littérature française, j'entends. Il va y avoir une grande période de littérature fantastique liée au romantisme. Hein. Un des traits, je pense, importants du romantisme, qui n'est pas forcément souligné par les spécialistes du romantisme, c'est que beaucoup d'auteurs romantiques ont écrit du fantastique. Alors c'est évidemment le cas pour Nerval, c'est le cas pour Nodier, qui a joué un rôle fondateur très important. Il était bibliothécaire de l'Arsenal. Et il y avait des réunions de tout le groupe romantique chez lui à la bibliothèque de l'Arsenal. Alors avec une position un peu particulière, Naudier, parce qu'il a écrit un petit recueil assez tôt, hein, dans les années 1830-1840, je ne sais plus exactement, qui s'appelle Infernalia, qui est une sorte de recueil de petits échos fantastiques. Et il y a une préface de Naudier où il dit, je vous propose des récits où on va vous parler de fantômes, de vampires, mais surtout, prenez pas ça au sérieux. Ça n'existe pas, il faut accepter ça comme ça l'est, c'est-à-dire c'est de pure création romanesque. Alors que, effectivement, on est à une période où la légende du vampire qui vient de la Mitteleuropa, de Roumanie, de Hongrie, d'Allemagne, est très répandue. La croyance en vampire est très répandue. Et Naudier dit non, ne prenez pas ça très au sérieux, mais il écrit quand même un recueil de contes qui va puiser d'ailleurs dans des livres du 18e, quelques anecdotes. C'est assez intéressant. Les vrais contes fantastiques de Naudier sont assez rares. Il y a une très belle histoire de fantôme, sauf qu'à la fin, c'est un fantôme expliqué. Dans la tradition de ce que font en Angleterre les auteurs de romans noirs comme Anne Radcliffe, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui vivent des événements qui paraissent surnaturels, mais qui sont expliqués à la fin. Donc là, on n'est pas tout à fait dans le fantastique.
On peut rebondir sur un auteur qui nous est particulièrement cher au visage vert, qui est James Hogg. C'est intéressant parce qu'il va être à la croisée d'un certain nombre de choses. James Hogg, c'est un auteur écossais qui est mort dans les années 1830. Il est à l'origine, il est d'une famille de bergers des Borders. Et sa mère a d'ailleurs été interrogée dans le cadre d'une recollation de contes et de mélodies populaires écossaises par Walter Scott. Ensuite, il y a une relation entre Walter Scott et James Hogg, qui est que Hogg est berger sur les terres de Walter Scott. Et il est, à côté de cela, lui-même auteur. Et il écrit un roman qui est tout à fait extraordinaire, qui est Les Confessions du pêcheur justifié, que je vous conseille naturellement de lire dans une très belle traduction de Dominique Horry. Il y a aussi une histoire un peu compliquée de ce livre qui a été redécouvert par Gide juste après la Seconde Guerre mondiale et qui a été traduit une première fois par Dominique Horry et une deuxième fois par Jacques Papy. Jacques Papy étant une autre grande figure de la traduction qui a notamment traduit Lovecraft. Et le roman de Hogg, qui est un roman fantastique au sens propre du terme, a la figure du diable. Du diable tout à fait particulier, à la figure du doux, puisque le diable prend l'apparence de personnages existants dans le roman, qui a deux frères ennemis. C'est un roman qui a une richesse incroyable, qui a une langue en plus tout à fait magnifique. Et il y a une pirouette à la fin du roman que je ne dévoilerai pas, mais qui semble effectivement mettre en abîme tout ça et dire, bon, voilà, vous avez lu, vous y avez cru. Maintenant, parce que tout cela, naturellement, on est dans le roman, on est dans la fiction, donc on sait très bien qu'on est dans la suspension de l'acte de douter. Mais Hogg, en 1825, le met déjà dans une sorte d'abîme qui peut effectivement rappeler Naudier. Enfin, ce sont des auteurs, de toute façon, du début ou de la grande première efflorescence du fantastique romantique. Il est vraiment important, et enfin important, il peut se passer tout, mais c'est bien d'avoir lu.
Oui, alors le romantisme en France, avec des gens comme Théophile Gautier, qui est certainement celui dont les textes fantastiques paraissent les plus modernes aujourd'hui, parce que les textes de Gérard de Nerval sont comme La Main de Gloire, par exemple, sont des textes assez formidables, mais comment dire, je ne suis pas sûr que Nerval croyait vraiment au fantastique, même s'il a traduit Faust et des histoires de diable. Il y a une espèce de distance. C'est souvent des textes qui sont qui ont un caractère un petit peu grotesque, alors que chez Théophile Gautier, on a vraiment des thèmes extrêmement modernes. Par exemple, quelqu'un rêve, a l'impression que ce qu'il a vécu, il l'a rêvé, mais quand il se réveille, sur sa table de chevet, il y a un objet qui lui laisse penser que, pas du tout, il a vraiment vécu ce qu'il pense avoir rêvé. C'est pas un cauchemar, c'est ce qui s'est passé dans la vie réelle. Ça, ça me semble quelque chose d'assez moderne. Il faut citer aussi Balzac, qui, au début de sa carrière, a été très tenté par le fantastique et par l'occultisme. L'occultisme aussi, et les rapports entre fantastique et occultisme ont des rapports qui sont intéressants à étudier. Mais avant ça, il y a une figure cruciale qui est un auteur allemand, qui est Hoffmann. Et chez Hoffmann aussi, on va trouver des thèmes fantastiques très variés, mais avec la figure du diable et de la perdition très importante. Et puis, c'est parce que les auteurs français ont lu Hoffmann qui vont se consacrer au fantastique. Et il y a une très belle introduction de Théophile Gautier à Hoffmann qui donne de... On comprend très bien en lisant ça que l'influence importante qu'a eu Hoffmann sur les littératures françaises. Et je ne parle pas des petits romantiques, les auteurs qui sont à peu près tous oubliés aujourd'hui, mais qui ont presque tous écrit du fantastique, dans des contes fantastiques, dans des volumes qui s'appelaient d'ailleurs, pour faire anglais, l'équipe sec. Oui. Mais la grande époque du fantastique, c'est pas en France, c'est pas en Allemagne, c'est en Angleterre au 19e. Et alors, moi, c'est une proposition de mon éditeur, hein, Jean-Louis Fadjen, qui m'a dit « J'aimerais que tu me fasses une encyclopédie du fantastique et que tu traites tout. » C'est-à-dire que ce soit pas seulement sur la littérature, que ça tienne compte du cinéma, de la bande dessinée, de la radio également, et des séries télévisées. Le seul domaine sur lequel j'ai rien trouvé de particulier, parce que c'est le domaine du jeu, alors que dans le précédent livre sur la fantasy, là effectivement il y a une influence directe sur le ludique contemporain. Beaucoup de jeux d'aventure sont des jeux de fantasy. Le rapport avec le fantastique, c'est beaucoup plus lointain, et comme j'ai passé l'âge de jouer, c'était un peu compliqué pour moi. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir comment évolue le fantastique par période. Comment c'est une littérature qui maintenant a un peu plus de deux siècles et qui a subi toute une série de mutations. Et il fallait trouver les moyens de voir comment tout ça s'articule. Alors il y a des moments où c'est très facile. Il y a des moments, par exemple, les années 30 aux États-Unis, d'un seul coup, on a le cinéma américain qui s'empare des grands mythes fantastiques anglais, puisque c'est surtout des auteurs anglais, même s'il y a des auteurs américains qui écrivent aussi du fantastique, Dracula, Frankenstein, et on a les grands films avec d'un côté Frankenstein et James Whale, et joué par Boris Karloff, et de l'autre le Dracula de Todd Browning, joué par Bela Lugosi. Et dans un premier temps, James Whale ou Todd Browning sont des cinéastes importants. Et puis ça marche très bien, même si ces films sont faits par une maison de production Universal qui n'est pas une major compagnie. Ça marche très bien, mais ce à quoi on assiste, ce qui est intéressant, c'est à quel point, très vite, le mythe se dégrade. Comment Bela Lugosi va, à partir de quasiment du second film, faire des films de vampires de deuxième zone. On va lui demander, comme ça marche pas mal auprès du public, on va lui demander d'incarner son personnage. Et il va commencer à donner, alors je ne sais pas qui a eu l'idée, si c'est Bela Lugosi ou si c'est un communicant d'Hollywood, mais il a eu l'idée de donner des interviews costumées en Dracula dans un cercueil. Alors ne vous étonnez pas si après ça, sur la fin de sa vie, Bela Lugosi, qui était tombé de films de Todd Browning à des films de série Z, hein, il a tourné quand même avec Ed Wood, hein, ce qui a permis à Tim Burton de faire un film tout à fait étonnant. C'est une longue déchéance avec un personnage littéraire très important, Dracula. C'est quand même le grand roman de vampire sur lequel il faudrait se pencher longuement. Et il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent de près parce que, même s'il y a eu Carmillach et Armand Fanny avant, pourquoi c'est en Angleterre qu'on écrit le grand roman de vampire alors que ce sont des superstitions qui viennent d'Europe centrale? On ne sait pas très bien, d'ailleurs, toujours pas. Il y a des hypothèses avancées pour savoir qui a donné à Bram Stoker l'idée de faire quelque chose sur les vampires. Et donc, de ce personnage absolument étonnant de la littérature anglaise, on assiste en très peu de temps à une dégradation, et ça va se terminer avec des films où les vedettes sont Abbott et Costello. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, imaginez Laurel et Hardy, mais complètement ringard. Et dans les années 40, il y a toute une série de films fantastiques où Abbott et Costello rencontrent l'homme invisible, Dracula, Frankenstein, et c'est eux les vedettes. C'est plus Dracula ou Frankenstein. Donc il y a une dégradation, très, très vite du mythe. Or, en même temps, si pendant très longtemps, jusqu'à la fin du 19e en Europe, la littérature fantastique est une littérature lettrée. Quels sont les grands textes du fantastique du 19e? Alors, moi, je me suis référé à Stephen King, qui a écrit un essai sur le fantastique que je trouve assez remarquable, où il explique que la littérature fantastique du 19e a joué avec quatre cartes du tarot fantastique. Le premier, c'est le vampire, Dracula. Le deuxième, c'est Frankenstein, le monstre sans nom. Le troisième, c'est le fantôme. Et alors là, il dit qu'il y a beaucoup trop de textes pour donner un seul titre, mais il dit quand même que le plus grand livre, c'est Le Tour d'écrou d'Henry James, qui est un auteur américain, mais qui vivait en Angleterre, et qui a écrit son roman en s'inspirant d'une histoire que lui avait racontée l'archevêque de Canterbury, qui est très exactement l'histoire du Tour d'écrou, hein, c'est-à-dire deux enfants qui voient des fantômes. Alors la grande force du livre d'Henry James, en dehors d'un style absolument époustouflant, c'est que ça reste un tout petit peu ambigu. Mais quand même, quand on lit Le Tour d'écrou, il y a quelqu'un qui voit les fantômes, et pas seulement la gouvernante. Et à la fin, la petite fille se met à proférer des insanités qu'entend la gouvernante, mais aussi la femme de charge, enfin celle qui est l'intendante du domaine. Donc il y a, et c'est pas si ambigu que ça, et Henry James était persuadé du fantastique, puisque le dernier roman qu'il a écrit, qui est un roman inachevé, est un texte fantastique. Et il a écrit peut-être des plus belles nouvelles fantastiques qu'on puisse lire. L'idée est assez jolie. C'est un Américain qui a vécu toute sa vie en Europe et qui, sur la fin de sa vie, revient aux États-Unis dans la maison familiale. Et là, il va rencontrer un fantôme. Et ce fantôme, c'est son fantôme à lui, c'est ce qu'il serait devenu, ce qu'il aurait été s'il était resté aux États-Unis. Donc, ce que René Rouven appelle un survenant, c'est-à-dire une existence virtuelle. Et je crois que là, on est vraiment au bord de la littérature fantastique et qu'il faut peu de choses pour qu'on passe à la littérature générale. Et puis, il y a un quatrième figure du fantastique qui est le loup-garou, c'est-à-dire l'homme qui se transforme en bête. Et là, Stephen King cite un roman qui n'est pas un roman de loup-garou, mais qui est effectivement le plus beau livre sur le sujet, qui est Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Et tous ces thèmes ont été traités par Hollywood dans les années 30-40. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, plusieurs fois, et des films de catégorie A, Le Tour d'écrou. Par contre, c'est le cinéma anglais qui l'a fait beaucoup, beaucoup plus tard, dans les années 60, avec un film remarquable. Et, paradoxe, auteur américain, c'est le cinéma anglais. Et Jekyll and Hyde a été fait plusieurs fois par le cinéma américain.
Le cinéma américain, c'est pas privé de faire des fantômes à l'appel.
Oui. Mais en même temps, le fantôme, c'est un personnage ambigu parce que là, c'est pareil. Un des grands films de fantômes américains a été fait par un Français, René Clair, Fantômes à vendre, et on est chez Oscar Wilde avec un fantastique et un fantastique léger. Le fantôme, on l'achète avec le château et on le réinstalle aux États-Unis. Alors la figure du fantôme, c'est un cas un peu à part parce que il y a beaucoup de fantômes qui peuvent être traités de manière humoristique.
Oui, humoristique. C'est effectivement le René Clair, si je ne me trompe pas, aussi réalisé Ma femme est une sorcière.
Oui. Tout à fait.
La sorcière étant aussi une sorte de figure intéressante, exploitée par Stephen King, enfin pas dans ce, mais on va la retrouver aussi de façon transversale dans un certain nombre, la sorcière ou le sorcier, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le monde normal et le monde diabolique, le monde surnaturel. On a un joli exemple de fantôme, et là aussi une dégradation rapide de la chose, puisque le roman initial de Fern Smith est un roman drôle, certes, mais tout à fait convaincu de la profondeur du mythe de la sorcière. Le film de René Clair est déjà un tout petit peu vers l'extérieur, et puis les sorcières bien aimées, là on est un peu dans la dégradation avancée.
Mais il a fallu trouver une actrice dont le nez bougeait.
Oui, elle ne bougeait pas avec ses doigts, non? Elle le bougeait toute seule.
Ouais. Oui, mais on a aussi une série de films avec Topper, qui est un couple,
c'est du même temps,
cinéma américain des années 30, où un couple meurt et les fantômes restent dans la maison qui est rachetée par un milliardaire, et les fantômes vont se révéler assez casse-pieds, quoi, pour le propriétaire. Et le film donne naissance à une série, et puis après ça donnera naissance à une série télévisée, à des sitcoms comme Ma femme est une sorcière également, c'est-à-dire que, et on va trouver dans les sitcoms américaines des années 50-60, plusieurs séries fantastiques, dont une absolument remarquable qui est The Addams Family, la famille Addams, où on trouve tous les personnages du fantastique. On trouve la momie, on trouve le mari qui est un vampire, la petite fille qui est cannibale, enfin bon, toutes les grandes figures sont là, inspirées par les cartoons d'un des grands dessinateurs d'humour, Charles Addams. Mais c'est qu'il s'est produit en fait quelque chose d'important qui se produit pas en Europe, et peut-être que Anne-Sylvie pourra nous expliquer comment la littérature fantastique a été éditée en Angleterre, parce que c'est très important. Mais aux États-Unis, il se passe un phénomène dans les années 20 qui est le phénomène des pulps, c'est-à-dire des magazines très bon marché, publiant des nouvelles, et assez rapidement, les pulps se sont centrés sur un certain type d'histoire. Les premiers pulps sont des pulps dans lesquels on a des histoires très mélangées, mais très rapidement, ça s'est spécialisé. Alors, il y a des pulps western, il y a des pulps d'histoire policière, il y a des pulps d'aventure. Et il y a eu un premier pulps consacré au fantastique. Alors, le vrai, il y en a eu un avant, mais qui a une existence très courte et pas décisive. Mais dans les années 20, se crée un grand pulps consacré au fantastique, et on peut même dire à l'horreur, qui est Weird Tales. Et là-dedans, on va voir apparaître des auteurs comme Lovecraft, comme Robert Howard, c'est-à-dire les premiers auteurs de textes d'horreur. Lovecraft, c'est très ambigu parce qu'on peut le considérer comme un auteur de textes fantastiques, comme un auteur de textes de fantasy, comme un auteur de science-fiction. Pareil pour Howard, qui est surtout un auteur d'Eric Fantasy, mais autour des auteurs qui écrivent de vrais textes fantastiques. En particulier un jeune auteur de 13 ans, je crois qu'il a 13 ans ou 14 ans quand on publie sa première nouvelle, Robert Bloch, qui deviendra un des grands auteurs. Et là, ce pulps-là, qui a un certain succès, ça veut dire qu'on passe à un fantastique qui est une forme de la littérature populaire.
Oui. Non, ce qui n'a pas été le cas, ça n'a pas été vraiment le cas en Angleterre. On est resté sur des formes de littérature. Les grands auteurs de l'entre-deux-guerres, les grands auteurs édouardiens continuent à publier les Benson, les, effectivement M.R. James, continuent à publier chez des éditeurs de littérature générale, et on n'a pas ce mouvement vers la... Par contre, les pulps américains arrivent en Angleterre. Il y a une possibilité quand même de les lire, mais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la littérature fantastique anglaise, on pense aussi à des auteurs comme Macken ou des auteurs... Il y en a une grande quantité, Onions, Hitchens continuent à publier chez des éditeurs qui sont des éditeurs également de littérature générale. Et sont de ce fait, effectivement, moins... le mouvement de fusion avec le dessin, avec la bande dessinée, qu'on va avoir du côté américain est beaucoup moins effectif. Et ce sont des auteurs de ce fait qui sont plus facilement oubliés, beaucoup plus facilement enterrés maintenant. Les frères Benson, par exemple, qui ont écrit des choses absolument extraordinaires, ou Hugh Walpole, des gens comme ça, ne sont... du fait de cette espèce d'isolation d'expression culturelle ou même de publication, sont restés relativement confidentiels.
Alors qu'aux États-Unis, on va très vite avec un premier pas dans la littérature avec les pulps, très rapidement derrière, on va voir apparaître des comic books avec des bandes dessinées fantastiques. Un peu plus tard, puisque le comic book il va se développer à partir des années 40. Et entre les deux, le cinéma surtout. Avec quelque chose qui est, à mon sens, assez intéressant, c'est que Hollywood va reprendre les grands personnages de la littérature édouardienne et victorienne, mais il va introduire dans le fantastique d'autres personnages qui sont essentiellement des personnages cinématographiques, parce que même si on écrit des nouvelles sur les momies ou sur les zombies, l'impact premier, il n'y a pas de grand texte, pas de grand texte sur les zombies ou sur les momies comme comme il y en a sur les fantômes ou sur les vampires. Donc c'est vraiment le cinéma qui va imposer ces figures-là. Le zombie, bah, c'est le mort-vivant, c'est une espèce de ressuscé du vampire, mais avec toute une mythologie autour qui est très différente, hein, puisque c'est une culture, ça part d'une culture afro-américaine, avec une forme de religion spécifique, hein. On trouve d'ailleurs des ethnologues qui ont écrit des textes, c'est comme ça que ça commence à être répandu, des ethnologues qui parlent de la religion vaudou et de cette croyance dans le retour des morts qui fait que des auteurs se sont mis à utiliser des vaudous dans des nouvelles de Pulps. Et la momie, bah là aussi, on est un peu sur la même forme, c'est-à-dire le personnage qui est mort et qui revient à la vie ou à une espèce de semi-vie et qui devient un monstre. Là aussi, cette figure-là, elle vient du cinéma. Il y a très peu de textes, même si Bram Stoker, il y a eu dans la période victorienne un bref moment où les résultats de l'égyptologie ont hanté les mémoires, la fameuse malédiction, la grande pyramide, parce que les archéologues qui avaient ouvert la tombe s'étaient retrouvés morts ou malades, et d'un seul coup, on pouvait commencer à écrire des textes terrifiants sur le retour des dieux égyptiens en Angleterre. Mais la momie, c'est le cinéma qui l'impose. Alors,
ça ne peut pas s'expliquer parce que les malédictions pharaoniques étaient assez terrifiantes quand même.
Pardon ?
Les malédictions qui étaient inscrites sur les tombes étaient elles-mêmes assez terrifiantes.
Oui.
Imaginez que ça inspire.
Oui, mais enfin, bon, qu'un scénariste américain puisse croire qu'une malédiction sur une tombe égyptienne soit effective, je ne suis pas sûr. Non, je pense qu'ils n'y croyaient pas, mais ils voyaient la matière de faire quelque chose d'intéressant, d'autant que après avoir usé Dracula et Frankenstein, fallait bien trouver quelque chose pour continuer. Il y a un film, je ne sais plus quel est son nom, mais on le trouvera dans le livre, où il y a tout. Il y a la momie, il y a Dracula, Frankenstein, ils sont tous réunis dans une maison. Là, on touche le fond. Mais alors qu'en France, il y a un bref moment, ça dure quand même pas mal de temps, mais il y a une forme d'expression qui est une forme d'expression populaire, très localisée, du fantastique. Ça mérite aussi d'être regardé d'un peu plus près, qui est le fait qu'à un moment, il y a eu un théâtre de la peur en France, dont vous connaissez tous l'expression, qui est le Grand Guignol. Alors, le Grand Guignol, il y a des pièces fantastiques, il y a des pièces qui mettent en scène des savants fous. Alors là, on est plutôt dans le domaine de l'horreur, des vrais textes fantastiques dans le Grand Guignol, c'est à la limite. Et puis, souvent, en même temps, il y avait une pièce terrifiante, mais à côté, il y avait des pièces comiques qu'on donnait dans le même programme, et le rire et la peur. C'est-à-dire deux réactions assez assez opposées. Et le type qui a fondé qui a exploité le grand, c'est pas lui qui l'a fondé, mais qui l'a exploité le plus longtemps, il avait compris une chose très simple. Il avait demandé, donc, les gens qui venaient au Grand Guignol, ils venaient là pour avoir peur. Et donc, il y avait une machinerie Grand Guignol qui permettait aux auteurs de compter avec un certain nombre d'effets spéciaux. Mais l'effet spécial le plus effectif, c'est qu'à l'entrée de la salle, il y avait un médecin avec sa blouse blanche et puis une civière à côté. Et donc, alors, j'ai rien lu là-dessus, mais j'ai rien trouvé là-dessus, mais je peux très bien imaginer, parce que ça s'est produit pour le cinéma américain, je peux très bien imaginer que le directeur du Grand Guignol ait un jour décidé de payer quelqu'un dans la salle pour s'évanouir, pour que les spectateurs puissent voir sortir quelqu'un sur une civière. Ça fait partie de la règle du jeu. Et le Grand Guignol a duré pendant une vingtaine d'années, mais il y a eu des ressoucés, mais la grande période est une période sur un temps relativement court, mais avec des effets assez étonnants. Par exemple, un des premiers créateurs de bandes dessinées d'horreur aux États-Unis, c'est quelqu'un qui avait vu les pièces du Grand Guignol à Paris, et qui a donc dit à sa rédaction, voilà, moi ce que je veux, c'est faire en BD ce que le Grand Guignol fait à Paris. Mais bon, c'est un temps très bref, et ça... Il n'y a pas, à ma connaissance, pas eu de mouvement analogue ailleurs, même si à Londres, on pouvait aller visiter le musée de Madame Tussaud et voir quelques scènes assez horribles en cire. Ce n'était pas tout à fait pareil. Les Américains ont importé un Maman de Grand Guignol. C'est le seul équivalent. Et ça n'est que bien plus tard que la littérature fantastique... est devenu en Europe, a appartenu à la culture de masse. Alors on peut donner la date, parce qu'on la sait, c'est les années 50, avec la création chez des éditeurs populaires, mais est-ce que c'est bien le terme, entre guillemets, sur le fleuve noir, avec une collection qui s'appelle Angoisse, là aussi, qui a eu 200 et quelques titres, qui a duré pas mal d'années, et qui est une collection populaire. Et à peu près à la même époque, il y a eu 3-4 collections créées, mais qui n'ont pas duré. Il y a qu'Angoisse qui a duré. Mais vous voyez la différence, hein, les pubs, c'est les années 20, hein, Wattel, c'est les années 20. En France, il faut attendre. Alors en Angleterre, je ne sais pas, parce que je ne connais pas très bien, mais je pense qu'il y a eu à peu près le même phénomène avec les paperbacks dans les années 50.
Il y a peut-être une petite précision aussi. La forme, une forme qui pouvait prendre, une forme qui pouvait rapprocher de la littérature populaire, la littérature fantastique en France, c'était les parutions en revue au début du siècle. On a, avec des textes qui n'étaient pas nécessairement des textes qui se donnaient comme fantastiques à première vue, mais qui, par le mode de traitement, par les déviations fictionnelles, le devenait rapidement. Et dans le dernier numéro du Visage Vert, on publie une nouvelle de René Thévenin qui s'appelle « La cité des tortures », qui est une histoire épouvantable de ville souterraine chinoise en Australie, où il se passe des choses tellement effroyables que je frémir et m'en parler. Et c'est paru dans le journal des voyages. Et en fait, c'est... Voilà, c'est à peu près comme si Géo publiait du Stephen King. Mais une sorte de... Donc on a un texte qui se donne comme un texte plus ou moins réaliste, qui en fait est totalement fictionnel et qui a des aspects fantastiques très marqués. Et là, on est dans des recyclages de figures qui sont... Qui vont être effectivement des figures exotiques, des figures de peur réalistes, qui n'ont rien à voir avec, en apparence, avec les monstres plus identifiables du tarot dont on a parlé tout à l'heure, mais qui, in fine, finissent par retrouver cette force d'évocation et cette force fantastique. Et entre la cité des tortures et... quelques années plus tard, en Grande-Bretagne, une figure comme celle de Fu Manchu, qui n'est pas fantastique à strictement parler, qui relève du roman populaire, et qui finalement, dans ses développements, va finir par exploiter des terrains qui, eux, le sont tout à fait fantastiques, avec des trucs pour tuer, avec des machines à tuer, avec des créatures, on a quand même toute une forme de littérature intermédiaire qui va... tant en France qu'en Angleterre, effectivement, qui n'est pas strictement réaliste, qui n'est pas strictement une littérature policière, et qui est finalement entre les deux, qui va avoir à peu près ces mêmes, enfin, des effets qui convergent avec les effets d'une littérature fantastique plus classique. On peut d'ailleurs voir dans le retraitement, le traitement de Fu Manchu au cinéma, encore un exemple de dégradation du mythe assez rapide. Après, il y a des tas d'autres implications qui sont intéressantes, mais on n'a pas trop le temps d'en parler ici, sur le rapport de l'Occident à l'Orient. L'Orient étant une terre où il se passe sur le plan de la littérature ou de l'expression fantastique des tas de choses dont on n'a pas non plus trop le temps de parler ici, mais qui commence alors peut-être maintenant, d'une certaine façon, à nourrir à nouveau l'imaginaire occidental par le biais notamment du manga, mais dans des proportions qu'on n'a pas encore tout à fait bien... bien délimité, mais qui va se passer des mariages intéressants, je pense, entre la littérature fantastique occidentale, entre guillemets, et ces nouvelles influences orientales. On l'a déjà vu un peu au cinéma avec le recyclage ou de quelques films fantastiques japonais par Hollywood, et on peut continuer à le voir, je pense, dans les années qui viennent. Voilà, on s'est un peu...
Non, non, mais le territoire du fantastique est tellement vaste que c'est un peu compliqué de l'arpenter. Alors, pour continuer à faire le tour, le cinéma américain a abandonné assez rapidement le territoire du fantastique, où là, confiné dans des séries B, avec, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité, il y a eu dans les années 50 un cinéaste qui s'appelle William Castle, qui faisait des films de fantastique ou de science-fiction horrifique, et lui il avait inventé un procédé dans le cinéma où c'était les fauteuils qui bougeaient au moment où il fallait, d'un seul coup, la grande scène, le fauteuil se mettait à bouger et ça avait des effets sur le spectateur. Donc on peut aussi mettre des machineries dans la salle pour que le spectateur ait peur. Ce qui est assez amusant, c'est de voir sur le plan du cinéma comment c'est une firme anglaise qui, dans les années 60, a repris les grands personnages du fantastique, hein, Dracula, Frankenstein, et qui les a fait incarner par des acteurs qui sont devenus emblématiques. Pour moi, Dracula, c'est Christopher Lee. Et quand je vois le Dracula de Francis Ford Coppola, je ne trouve pas que l'acteur choisi pour jouer Dracula soit...
Draculesque.
Non, celui qui va rester la figure de Dracula, pour moi, c'est Christopher Lee, parce que... Et de même, le docteur Frankenstein, c'est Peter Cushing, le docteur, pas le monstre. Et en même temps, la Hammer Film, puisque c'est cette boîte de production, elle va aussi réutiliser les autres figures. Elle va en particulier réutiliser la figure de la momie. Alors là, c'est des films terribles, quoi, parce qu'ils sont tournés en Angleterre. Et il y en a un qui se passe dans une sablière en Angleterre, pas très vaste. Et alors on voit un défilé comme ça. On voit assez rapidement qu'on a simplement changé les angles de prise de vue pour donner l'impression qu'on marche en plein désert. Donc là, on est à la limite du nanar. Mais avec des trouvailles, par exemple, il y a un film de Terence Fisher qui utilise la Gorgone, hein, donc un thème de la mythologie. Et puis, on assiste à nouveau à la dégradation, parce que ces personnages vont être pris. Il y a le personnage du loup-garou qui est filmé à la Hammer. Mais ces thèmes vont être pris par des cinématographies qui sont moins talentueuses ou moins riches, ou ce que vous voudrez. Et on assiste pareil à la dégradation du mythe. C'est-à-dire qu'il y a des films fantastiques espagnols, des films fantastiques mexicains, il y a des films fantastiques italiens. Et Si en Italie, il y a quelques chefs-d'œuvre comme Le Masque du démon de Mario Bava, il y a beaucoup de films de série Z. Et le cinéma contemporain, il continue à explorer de temps à autre la veine fantastique, mais avec des trouvailles. C'est-à-dire que moi, j'étais très frappé qu'en essayant, en regardant ce qui s'était passé ces dernières années, quels sont les films fantastiques qui m'ont impressionné. Eh bien, c'est deux histoires de fantômes. C'est Le Sixième Sens, de Chamalian, avec un truc de mise en scène, mais qui piège le spectateur. C'est purement et simplement une histoire de fantômes. Et l'autre, c'est le film Les Autres d'Amenabar, qui là aussi est une histoire de fantômes, mais qui est un trucage, puisque c'est pas un trucage au sens où on... Mais le réalisateur a adopté un point de vue, et comme le spectateur s'identifie à ce point de vue, il s'identifie au personnage qui est joué par Nicole Kidman et qui est un personnage de fantôme. Donc, des trouvailles intéressantes. Anne Sylvie parlait des reprises de films japonais. C'est vrai que on a assisté à la reprise de deux, par les Américains, de deux films qui ont été d'abord des romans et qui apportent du nouveau. Hein, ce film où on a aussi une cassette vidéo qui d'un seul coup est l'objet maléfique, qui a un thème fantastique assez fort, est très très réussi. On a par la suite assisté aussi à une deuxième révolution dans les années 70. C'est la révolution du roman d'horreur. Et l'idée, les grands auteurs, vous les connaissez tous, c'est Stephen King, c'est Peter Straub pour les États-Unis, il y en a un bon paquet. Et en Angleterre, c'est, il y a plusieurs auteurs comme Ramsay Campbell, à peu près à la même époque. Et l'idée souvent est une idée intéressante, c'est-à-dire on prend les personnages archétypiques du fantastique, qui sont personnages victoriens, et on se dit, est-ce que en prenant ces personnages et en le transposant à l'époque contemporaine, on peut en faire quelque chose? Est-ce que la thématique fantastique qui dans la bande dessinée, dans le cinéma des années 20, 30, 40 est quelque chose de daté, est-ce que d'un seul coup on peut le transposer à notre époque et voir si c'est opérant? Et le premier roman de Stephen King est un roman où il prend des vampires, hein, les vampires de Salem, ça se passe dans une ville américaine contemporaine. Le deuxième roman, Carrie, c'est un cas de possession. Pareil, est-ce que cas de possession, le poltergeist, une figure un peu particulière du fantôme, ça, c'est encore jouable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut la transformer? Et les auteurs de romans d'horreur ont montré qu'effectivement, on pouvait quitter l'époque victorienne pour aller à l'époque contemporaine, mais qu'en même temps, le changement d'époque entraînait toute une série de changements. Et ce qui me frappe beaucoup quand on étudie le roman d'horreur, c'est que les grands auteurs de romans d'horreur, ils ont écrit des romans d'horreur pendant 10-15 ans et ils sont passés à autre chose. Stephen King, il n'écrit plus de romans d'horreur depuis longtemps. Et Peter Straub, il a abandonné le roman d'horreur pour le roman policier avant de revenir récemment au roman d'horreur. C'est assez compliqué. Puis on a vu d'autres mutations qui sont des mutations d'un autre ordre, puisque la dernière en date est une mutation que vous pouvez vivre actuellement, il suffit d'aller dans une librairie, qui est le fait que on a changé la cible. Et que le fantastique, la littérature qui faisait peur, c'est une littérature réservée aux adultes. Moi, je me souviens avoir caché à mes filles des romans de la collection Terreur pour pas qu'ils les lisent. Ce qu'elles ont fait, bien évidemment, dans mon dos, et c'est la seule bonne manière d'aligner la littérature fantastique, c'est on a assisté à la création de littérature fantastique pour les enfants avec Chair de Poule, mais plein de séries américaines. Après tout, comme disait l'éditeur français Bayard, il avait une bonne réplique. Il disait, mais enfin, quand on lit aux petits-enfants le Chaperon Rouge et que le loup il est chez les grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant, ça fait peur. Et le dernier suivi, c'est qu'on a pris les enfants en des histoires qui se terminaient toujours bien. Il y avait on tombait chez les monstres, mais à la fin, les monstres disparaissaient. Les enfants les renvoyaient dans des territoires d'où ils n'avaient rien sorti. Ils sortaient indemnes en ayant appris quelque chose sur la vie. Là, on est dans une littérature qu'on appelle la bitlit, qui est une littérature pour les adolescents, ce que les Américains appellent les young adults, qui marche très fort. Si vous allez au rayon bitlit d'une librairie,
il y a des rayons bitlit, il y a même des rayons bitlit adolescents, des rayons bitlit adultes, j'ai vu ça dans la librairie en bas chez moi.
Et donc c'est la dernière mutation du fantastique. Ça va être l'heure de terminer, alors la question qu'on se pose tous, c'est quelle va être la prochaine mue, comment le fantastique va évoluer, comment il va. Alors personne ne peut le prédire, ça. Simplement, on peut constater une chose, c'est qu'actuellement, le relais a été pris de manière très forte par les séries télé. Et que, pour plein de choses, hein, si on voit en science-fiction, en polar, il y a des séries télé fantastiques. Et c'est assez intéressant de les scruter, parce qu'il y a des séries dont on voit très bien qu'ils viennent dérive de l'habitude. Hein, Vampire Diaries, c'est des romans. True Blood, c'est déjà un peu plus compliqué parce que producteur de True Blood, Alan Ball, c'est celui qui avait fait cette série sur les croque-morts, donc ça change un petit peu déjà. Mais ce qui va être intéressant de guetter, c'est une série télé dans laquelle, d'un seul coup, on va voir apparaître quelque chose, je ne sais pas quoi, mais qui va montrer qu'il y a une possibilité de faire évoluer le fantastique. Et je suis prêt à parier que ça va arriver.
Juste une petite question. Vous n'avez pas trop parlé du fantastique sud-américain.
Borges, par exemple, a écrit une nouvelle en référence à Lovecraft. Il y a Boy Casares. Donc, au niveau sud-américain, il y a plein de choses. Et au niveau film également. Alors, c'est un peu littéraire, si on prend un dira. Jodorowsky aussi, une sorte de ligne fantastique. Donc, ça m'intéresserait un peu d'avoir votre avis sur le sujet.
Ah oui, très, très vite. Oui, j'ai fait un chapitre... J'ai fait un chapitre sur les littératures fantastiques du XXe, où d'un seul coup, on a des littératures fantastiques de partout. Alors, ce n'est pas seulement sud-américain, quoi que ce soit pour moi. Borges et Bioy Casares, c'est vraiment absolument crucial. Et avec une inflexion, c'est-à-dire que chez Borges, qu'est-ce que les auteurs fantastiques recherchent chez les lecteurs ? C'est la peur, la terreur, l'effroi, c'est la manière de dire la même chose, le malaise, l'indécision. Il y a des textes où on se demande si est-ce que c'est vraiment un fantôme ou... chez Borges, c'est pas ça. Ce que cherche Borges, c'est le vertige. Et c'est le vertige textuel, parce que le jeu de la mise en abîme, de la fiction et du réel... Mais il y a des auteurs italiens, il y a des auteurs polonais, il y a des auteurs allemands. On n'a pas parlé de la revue allemande Die Orchidengarten dans les années 20. C'est une revue où tous les grands auteurs allemands. Donc c'est devenu une littérature cosmopolite, fantastique. Si tant est que c'est une naissance récente, parce qu'on trouve des textes fantastiques en Italie depuis très longtemps, en Espagne depuis très longtemps... C'est une évidence qu'il y a dans toute littérature, il y a des parts fantastiques.
Oui, pour les raisons qu'on a évoquées au tout début de la conférence, c'est-à-dire qu'il serait quasiment impossible de séparer la naissance de la fiction dans une culture donnée ce qui crée la, enfin, de ce qui dans le processus d'imagination d'un individu crée la fiction. Et dans ce processus, il y a forcément un jeu avec la création d'un autre individu, ne serait-ce que de manière romanesque. On commence déjà à jouer avec la création de surnature. Donc, de toute façon, dans le geste de l'écrivain, il y a forcément quelque chose d'un peu particulier dans l'effort qu'il va demander à son lecteur de suspendre son suspension of disbelief, disent les Anglais, on suspend son doute. Le temps de la lecture, on suspend son doute. C'est particulièrement important, évidemment, en termes de littérature fantastique, de devoir suspendre son doute. Mais on le fait pour toute forme de littérature. Donc il y a pas d'exemples à ma connaissance d'une littérature qui n'est pas à un moment, d'une culture qui n'est pas engendrée, une littérature de nature fantastique. Donc il y en a partout, simplement. Il y en a tellement partout que c'est compliqué d'en parler. Et compliqué de la publier, hélas, parce que là, on cherche...
Alain de Quincke-Borges, c'est Borges, la fiction, il a écrit, c'est conte fantastique. Alors il y en a, vous savez, qui discutent, qui disent c'est pas du fantastique Borges. Alors, même ma position personnelle est simple, si Borges dit que c'est des contes fantastiques, c'est que c'est des contes fantastiques. Qui sait mieux que n'importe qui d'autre ce qu'il a voulu faire.
Savez-vous, parmi les créatures, pourquoi le golem n'a pratiquement pas eu de postérité, ou un feu de paille?
Oh, le golem, petite postérité quand même.
Il y a même un livre de Marek Alter récent.
Oui, il a eu quelques... Et en bande dessinée, et au cinéma, je pense qu'il y a eu quelques...
Par le film de Mérenc, en 1920...
Non, il y en a eu plein. Hein.
Non, il y en a eu plein de golems.
Il y en a eu plein.
C'est le livre.
Non, des golems, il y en a eu plein.
Oui, des golems, il y en a eu plein. Et puis, ils prennent d'autres formes. Vous pouvez dire du golem qu'il n'est pas totalement sans ressemblance avec l'animation d'un être inanimé. Bon, on n'est pas totalement loin de la créature de Frankenstein non plus. Donc, vous avez des croisements comme ça. Est-ce que le golem est un truc à part? On peut se poser la question, mais oui, il a quand même une postérité cinématographique.
Est-ce qu'il est encore fantastique s'il y a un côté croyance religieuse qui...
On le disait tout à l'heure, le diable est un beau personnage à la croisée du religieux et du fantastique.
Mais pour le croyant, c'est pas du fantastique.
Pour le croyant, le diable n'est pas du fantastique, c'est vrai. Et le diable avec des cornes et une fourche. Le diable... Le diable qui apparaît à Michel Simon. Je vois votre point.
La mystique juive, par exemple, elle aboutit à un film comme Pi. C'est un peu la même idée que le golem, finalement.
L'idée primitive du golem est une idée religieuse. Mais il y a nombre de. On n'a pas trop parlé, effectivement, du fantastique, par exemple, du fantastique japonais. Mais le fantastique japonais s'inscrit dans une tradition de religieuse de d'être intermédiaire entre les dieux et les vivants. Il engendre des choses fantastiques. Après, on est dans un rapport compliqué avec ces choses-là.
Classique médiéval, les revenants.
Si vous lisez, il y a un très joli ouvrage qui s'appelle Le Dictionnaire des Yokai. Le Dictionnaire des Yokai. Ce qui est le dictionnaire les yokai, c'est les monstres, les êtres intermédiaires du folklore ou de la culture japonaise, par un dessinateur de manga dont le nom m'échappe à l'instant, Shugeru Mizumi, il me semble. Ça se trouve facilement, c'est piquant. Mais vous verrez, la façon dont il parle des choses, c'est exactement à la croisée des chemins que vous décrivez. On est entre le religieux et le fantastique.
Là, il va falloir qu'on laisse la place à Jacques Sadoul.
Et donc, merci en tout cas.
Merci de votre attention.